Bonsoir, vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 et maintenant avec l'émission Vive la Sociale. Ce soir, nous vous proposons l'enregistrement de la présentation faite par Félicien Faury de son livre intitulé « Des électeurs ordinaires » dans une réunion qui a été organisée par la librairie Michel Firk le 28 mai dernier à La Parole Errante. Les électeurs dont il est question, ce sont bien sûr ceux du Rassemblement National. Et le livre est le résultat d'un travail d'enquête sociologique qui a été mené donc par Félicien Faury auprès d'eux. Le sujet était d'actualité, mais deux raisons nous ont amenés à aller écouter cette présentation. La première, c'est qu'à la différence de plusieurs analyses qui ont cours dans l'extrême gauche, l'auteur ne parle pas de fascisme, ni de danger fasciste, mais d'extrême droite, ce qui nous semble mieux correspondre à la réalité actuelle. Nous ne parlerons donc pas du fascisme, qui est autre chose que le phénomène politique auquel nous avons affaire aujourd'hui, quitte à aborder le sujet dans une autre émission. Deuxième raison, il ne proclame pas la nécessité de monter sur les barricades pour aller se battre avec les hordes fascistes qui nous menaceraient. Mais il essaie de comprendre comment les électeurs pensent, comment ils perçoivent leur réalité et quels sont les ressorts du vote du Rassemblement National, vote qui ne fait que grandir depuis 40 ans. Cela nous semble suffisamment intéressant pour livrer de ces réflexions à nos auditeurs. George Orwell disait que quand l'extrême droite progresse chez les gens ordinaires, c'est d'abord sur elle-même que la gauche devrait s'interroger. Or, comprendre comment pensent les électeurs du RN nous semble un premier pas indispensable pour aller dans cette direction. Nous ne vous livrons que l'exposé de l'auteur qui dure environ une heure. L'enregistrement du débat qui a suivi étant de trop mauvaise qualité pour être diffusé. Cependant, la réécoute de cette présentation et la lecture de l'ouvrage que nous avons fait ensuite nous ont amené à formuler quelques réflexions critiques que nous vous proposons donc dans la dernière partie de l'émission. Et au moment des pauses, vous entendrez successivement trois chansons composées et chantées avec d'autres par Giovanna Marini, cette grande musicienne, chanteuse et compositrice italienne qui a disparu en mai dernier. Sa vie durant, elle a travaillé à recueillir les chants polyphoniques de tradition orale de son pays, à les transmettre et à faire revivre cette tradition dans des chants d'une grande force poétique et musicale, mais aussi souvent militante. En témoignent ces trois chansons, tirées de son album « Cantata Ariace », qui, d'une manière ou d'une autre, font un peu écho à ce qui nous travaille aujourd'hui.
Donc, on est ici ce soir pour présenter le bouquin de Félicien Faury, « Des électeurs ordinaires, enquête sur la normalisation de l'extrême droite au seuil ». Peut-être en un mot te présenter, donc, tu soutiens ta thèse en 2021. En ce moment, tu es postdoctorant au CESDIP, ou si je ne me trompe pas, tu travailles sur la police et les nouvelles technologies de surveillance, notamment de vidéosurveillance.
Ah ouais, c'est aussi côté manifestant, c'est comme. Je travaille sur, donc ça s'appelle vidéo et police, et c'est comment les nouvelles technologies visuelles, mais y compris smartphone, ont un impact ou non sur le contrôle de la police et le comportement policier. Et c'est un postdoc comparatif avec l'Allemagne, le Royaume-Uni, le Canada.
Ok. Par ailleurs, ça fait près d'une petite décennie maintenant que tu travailles sur l'extrême droite et tu as publié une kyrielle d'articles, dont notamment un chapitre sur cette très belle brique de sociologie politique sur le Rassemblement National. Sachant que, pour le coup, le livre qui nous intéresse aujourd'hui est un peu différent parce que, plutôt que de t'intéresser au personnel politique du parti, tu t'intéresses volontairement à ce que tu vas décrire comme des électeurs, des gens ordinaires, c'est-à-dire qui n'ont pas d'engagement en particulier ou de professionnalisation marquée dans la politique. Et à travers eux, tu donnes à voir quand même une certaine idée de la radicalisation des classes moyennes blanches. Alors, on saute un peu les étapes, mais on va y arriver. Donc là, on parle de 15 mois d'enquête qui s'étalent de l'automne 2016 à l'été 2020, T2. parmi tout un tas d'entretiens que tu as fait avec des électeurs de droite comme de gauche, tu vas retenir une trentaine de profils d'électeurs qui te disent avoir voté ponctuellement ou de manière régulière pour le FN, et tu vas sur cette base essayer de comprendre les affects, les représentations et le sens qui les a poussés à choisir ce vote-là. Sachant que déjà là, il y a un choix qui est assez intéressant, c'est celui de se focaliser donc sur l'électorat de la région PACA, enfin du Sud-Est, et c'est-à-dire de donner à voir peut-être un électorat qui sort un peu des poncifs médiatiques quant à l'électorat du FN, c'est-à-dire des classes moyennes qui, certes, ne roulent pas sur l'or, mais sont dans une certaine situation de stabilité. Il y a des locataires, il y a des propriétaires, en tout cas, en général, on parle de CDI, des gens qui, de prime abord, ne correspondent pas tout à fait à l'image larmoyante de la colombe qu'on a pu voir dérouler depuis une petite décennie maintenant dans les différents médias. Autre spécificité de cette population-là, et la seule constante en fait de tous les électorats FN, c'est le faible niveau de diplôme, hein, qui va aller de pair avec une non-maîtrise des codes, de la culture légitime, etc. Ce sera important peut-être quand on parlera du racisme tout à l'heure. D'ailleurs, je pense qu'on peut, rentrer dans le vif du sujet. Là, normalement, je te demanderai la question choc que la France attend, c'est « sont-ils racistes ?» Sauf que tu me donnerais une réponse un peu décevante de sociologue, de l'ordre « on ne tente pas de définir si tel ou tel individu est raciste, on se contente juste de voir des processus de racialisation à l'œuvre au niveau social ». Ce sont des processus structurants qui ne se jouent pas au niveau individuel. Par ailleurs, le racisme est protéiforme et transversal à la société. Il ne s'agirait donc pas de stigmatiser un certain classisme, les formes les plus plébéiennes et moins dégrossies de ce racisme, etc., etc. Donc, pour nous éviter à tous ce passage-là, on peut directement passer à la suite, c'est-à-dire ces gens interprètent la société, la perçoivent et se la représentent selon des schémas racistes. Hein, toi, tu parles de compétition racialisée pour les ressources. Quelle forme ça prend concrètement et à quoi ça ressemble ?
Merci beaucoup pour la présentation. Comme tu l'as dit, les personnes que moi j'ai rencontrées, donc dans le sud-est de la France, j'ai cherché un peu, parce qu'ils ont des profils sociaux très divers, mais j'ai cherché à voir un peu ce qui les rapprochait. Premièrement, il y a un critère négatif, c'est-à-dire que je n'ai pas travaillé sur l'électorat ouvrier. Il n'y a aucune personne, il y a une personne qui est ouvrière à la retraite, mais en fait ce ne sont pas des personnes qui sont ouvrières. Et donc ça, comme tu l'as dit, ça va un peu à l'encontre de tout un ensemble de travaux qui se focalisent, à raison parce que c'est un phénomène important, mais qui peut-être se surfocalise aussi sur le vote RN ouvrier, alors que ce n'est pas du tout la seule classe sociale qui vote pour le RN, et notamment au sein des employés au sens de l'INSEE et au sein des petites classes moyennes, artisans, commerçants, professions intermédiaires. Ça a toujours été des personnes qui ont beaucoup et longtemps voté pour le Rassemblement National. Et si on veut trouver du coup un critère un peu plus positif pour les décrire, en fait, c'est des personnes qui, comme tu l'as un peu dit, ne se sentent pas en incertitude sur le marché du travail. C'est-à-dire que ce n'est pas des personnes qui ont peur de se retrouver au chômage, qui ont peur de perdre leur emploi, etc. C'est des personnes qui sont CDI ou bien qui sont à la retraite. Et en plus, en PACA, c'est beaucoup d'emplois qui sont non délocalisables, avec une économie résidentielle, et donc voilà, toute une structure économique qui fait que ce ne sont pas des personnes qui ont peur de la délocalisation, de la désindustrialisation, etc. Et donc en partant de là, il ne faut pas penser que par contre ils n'ont pas de préoccupations socio-économiques. Moi, quelque chose qu'on m'a beaucoup sorti, c'était le RN du Nord qui serait social versus le RN du Sud qui serait identitaire, et identitaire, ça voudrait dire qu'ils ne voteraient pas pour des raisons socio-économiques. Comme si le racisme aussi, l'islamophobie, ça ne touchait pas à des enjeux économiques. Et moi, en fait, le truc, c'est qu'ils me parlent tout le temps et constamment d'enjeux socio-économiques et de questions très, très matérielles du début à la fin des entretiens. Sauf que ça n'a pas porté spécifiquement sur la question de l'emploi. Ça a porté sur la question du logement, ça a porté sur la question du territoire résidentiel, ça a porté sur la question de la redistribution des impôts, des aides sociales, des charges, etc. Ça va aussi porter sur des enjeux qu'on dit de reproduction sociale, c'est-à-dire tout ce qui est lors de l'éducation des enfants. Et là, c'est dans ce cadre-là qu'il y a justement des concurrences sociales racialisées, c'est-à-dire que c'est sur ces enjeux-là qu'on va estimer que les minorités ethno-raciales désignées comme telles sont considérées comme moins légitimes que d'autres à entrer dans cette concurrence sociale. et d'où un sentiment d'injustice du fait que ces minorités sociales, ethno-raciales, pardon, soient justement tout bonnement présentes et incluses dans la solidarité nationale. Pour prendre peut-être un exemple un peu concret, la figure menaçante de l'immigré, donc je dis immigré à chaque fois, mais dans le livre, vous verrez, enfin, je le mets tout le temps entre guillemets, parce que le terme d'immigré, en fait, il est connoté racialement. C'est-à-dire, quand on parle d'immigré, en fait, sur mon terrain, on veut parler de personnes, la plupart du temps, désignées comme arabes, comme musulmans ou comme turcs, parce qu'aussi, il y a une communauté turque importante sur mon terrain. Et donc, le terme d'immigré, en fait, il est toujours, ça désigne jamais l'immigré au sens strict, en fait. Ça désigne aussi les personnes qui sont issues de l'immigration, comme on dit, mais qui n'en finissent pas d'être issues de l'immigration, parce que ça fait trois générations, mais qui sont assignées, du coup, à leur origine. Et donc, par contre, la figure de l'immigré menaçante, la figure menaçante de l'immigré, c'est pas l'immigré qui vient voler le travail des Français, au sens où il viendrait lui travailler, et donc il vaudrait le travail en lui-même prenant les emplois, en quelque sorte. En fait, l'immigré menaçant, c'est l'immigré qui, justement, ne travaille pas, et en fait, plus souvent, la famille d'immigré, c'est-à-dire qui ne travaille pas, qui vit du chômage, des allocations sociales, etc., et qui va voler le travail des Français, entre guillemets, mais indirectement, par le biais des impôts et donc par le biais de l'État. Et il y a un slogan que met en place le Rassemblement National à la fin des années 70, qui est 1 million d'immigrés égale 1 million de chômeurs, en trop. Et ils vont, chaque année, ils vont refaire ce slogan, et le chiffre va changer parce qu'il y a de plus en plus de chômage, et donc ils font cette mise en équivalence entre chômage et immigrés. Et ce qui est intéressant, c'est que ce slogan il est polysémique, en fait. C'est-à-dire que d'un côté, ça peut vouloir dire immigré égale chômeur parce qu'ils créent du chômage en travaillant eux-mêmes, ou bien immigré égale chômeur parce que ce sont eux les chômeurs et qu'on va financer avec nos allocations, etc. Et donc voilà, il y a ce type de concurrence sociale racialisée. Et comme je l'ai dit, là, vu qu'en plus ça passe par les enjeux de redistribution, il va y avoir aussi une mise en accusation de l'État. C'est-à-dire qu'à partir de cette mise en équivalence raciste, racialisée entre immigré égale chômeur, on va se dire, mais pourquoi du coup l'État... Il y a une électrice qui me dit « Mais pourquoi on fait venir des chômeurs ?» C'est-à-dire qu'en fait, ça leur paraît absurde dans leur économie morale, dans la vision qu'ils ont de l'économie. Et donc, il y a vraiment cette idée que l'immigration, c'est une sorte de passion d'État, comme je dis. C'est-à-dire que l'État souhaite, les élites gouvernementales souhaitent à tout prix faire venir des immigrés au détriment du groupe majoritaire donc, dans lequel ils se sentent appartenir. Donc voilà, c'est pour donner un exemple de ce type de concurrence sociale racialisée.
Oui, sachant que, pour le coup, tu mobilises à plusieurs moments dans le bouquin, mais j'ai pas vu cette espèce de double mouvement à la Stuart Hall, ce que tu décrivais, c'est-à-dire à la fois la classe comme modalité selon laquelle on vit la race, et inversement la race comme modalité à travers laquelle la classe est vécue. Ce que tu expliquais un peu, c'est-à-dire que se met en place un schéma selon lequel les chômeurs sont arabes et les arabes sont des chômeurs, du coup des effets politiques qui dépassent une simple xénophobie ou un simple racisme. Je prends un exemple que tu places à la fin de ton premier chapitre, mais c'est vraiment la reproduction des non-blancs qui est considérée a priori comme parasitaire, qui est structurée, constituée comme problème politique.
Ça c'est un... Effectivement, j'ai cette phrase, je crois que je dis les minorités non-raciales sont vécues comme très peu productives, mais trop reproductives. Encore une fois, au sens de la reproduction sociale, c'est-à-dire que ce qui est reproché, au fond, aux groupes perçus comme arabes, musulmans ou turcs, c'est, en quelque sorte, c'est plus les immigrés en tant qu'unité économique, c'est les immigrés en tant que groupes sociaux, mais justement, groupes sociaux au sens de, concrètement, ils existent socialement, ils sont inscrits dans le tissu social local, donc ils habitent quelque part, ils scolarisent leurs enfants, ils ont des pratiques culturelles qui peuvent être spécifiques, ils ont encore pire une religion qui peut leur être propre, etc. Et donc c'est toute cette existence sociale propre, en fait, qui est vécue comme scandaleuse lorsqu'elle met en cause les normes majoritaires. Voilà, il y a toute cette... je crois que c'est Colette Guillaumin qui décrit ça et dit, la minorité, elle se caractérise par une moindre existence, en quelque sorte. Et là, justement, ce qui est reproché à ces minorités, c'est d'un peu trop exister socialement. Et cette concurrence sociale racialisée, elle se met aussi en place à ce niveau-là.
Après, il y a une posture que tu adoptes que je trouve assez intéressante et saine. C'est que tu... tu vas pas non plus complètement discréditer ces représentations racistes, dans le sens où on n'est pas face à quelque chose de l'ordre d'un fantasme butlerien, ou enfin à la Judith Butler, ou d'une fausse conscience, ou je sais pas quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, c'est pas un déplacement complètement fantasmatique de certaines angoisses sur un objet qui serait par ailleurs choisi de manière arbitraire. De fait, ces minorités, bien, comme tu l'as dit à l'instant, elles vivent dans les mêmes quartiers, elles sont visibles, et le fait que la pauvreté ou le chômage touchent de manière disproportionnée les minorités ethno-raciales, c'est pas les électeurs du FN qui le délirent, c'est une réalité sociale. Donc, tu as cette formule que j'aimais pas mal, d'état objectivé du social racialement structuré, que tu peux peut-être expliciter.
Ouais. Bon, là, on est entré dans le vif du sujet directement, mais vous l'avez peut-être remarqué, mais quand j'ai commencé à travailler sur ce sujet, la question du racisme, c'est quelque chose qui est assez vite devenu quelque chose d'important. Parce qu'en fait, quand je faisais des entretiens avec ces électeurs, c'est quelque chose qui est venu très très rapidement, et à la fois dans le sens commun spontané, c'est-à-dire c'est les premières choses qu'on disait lorsqu'on parlait soit de son vote, soit lorsqu'on parlait des évolutions du territoire, mais aussi dans les discours plus intimes. Donc c'était pas juste quelque chose de surface, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui structurait un peu tout leur discours. Et moi j'arrivais, j'étais sociologue, et autour de moi, les lectures que j'avais de la part de personnes qui travaillaient les sciences sociales, il y avait un peu toujours ce même mouvement que peut-être vous avez en tête, mais qui est de bon, on arrive, ok, ils sont racistes, mais quand même, il y a des choses qui sont plus importantes, qui sont plus profondes, il y a des vraies causes sociales, et là on va parler du chômage, des inégalités de classe, des relégations économiques, de la mondialisation, etc. Et à ce même truc dans les médias aussi, de dire d'insister sur le fait qu'ils sont des dominés de classe, ce qui est en grande partie vrai, sans insister sur le fait que, du point de vue des inégalités ethno-raciales, cette fois, ils sont plutôt du bon côté de la ligne de couleur, si je puis dire, et ils sont dans une relation de pouvoir. Donc moi, c'est assez vite, en fait, cette articulation-là qui m'a intéressé, et avec cet enjeu de dire, bon, il y a cette parole raciste qui émerge, qu'est-ce que j'en fais ? Et effectivement, c'est comme tu dis, donc je passe longtemps dans le livre à définir cette question du racisme, et avec tout l'enjeu qui est de pas essentialiser. En fait, il y avait toujours deux enjeux. C'est un, de reconnaître qu'il y a du racisme dans le vote RN. Je sais pas si vous avez suivi, mais Julia Cagé et Thomas Piketty, ils ont écrit un gros livre là sur l'histoire du conflit politique. Toute leur promo, c'est de dire que c'est plus le cas, qu'il n'y a plus de sentiment anti-immigré dans le vote RN, qu'on le retrouve chez Zemmour, mais pas dans le vote RN, etc. Alors qu'ils n'ont pas du tout les moyens de le démontrer, donc je sais pas pourquoi ils font ça, en fait, mais... Enfin, si, je pense, du coup, il y a un projet normatif qui est de dire, vu que c'est des classes populaires, il ne faut pas encore plus les stigmatiser, en fait. Avec le problème, du coup, de taire cette parole raciste. Donc, moi, c'était le premier enjeu, c'est reconnaître ce fait-là, par lucidité et par souci descriptif, et en même temps, toujours insister sur le fait que... Parce que moi, mon gros problème, c'est qu'il ne faut pas que l'extrême droite, elle serve à nous innocenter nous-mêmes. C'est-à-dire qu'en fait, de dire, c'est eux les racistes, quoi, et en fait, ça permet de... C'est eux les pires, en gros. Et du coup, ça permet de ne pas prendre en compte le reste de la société et la manière dont les rapports sociaux de race, pour le dire ainsi, structurent encore notre société de façon centrale et non pas seulement aux extrêmes. Donc c'est un peu ces deux choses que j'ai essayé de mettre en place à la fois en termes d'arguments de rappel, si vous voulez, de toujours rappeler qu'effectivement, il y a certaines formes de racisme qu'on retrouve dans ce vote, mais ce ne sont pas les seules. Et en même temps, ce n'est pas seulement en termes de rappel, mais c'est aussi en termes d'explication. Et là, j'arrive à ta question, c'est-à-dire qu'il y a toujours cette idée de toujours ramener certaines formes de racisme explicites que je pouvais trouver dans les discours récoltés à des processus de racialisation qui sont beaucoup plus collectifs. Et donc, et en fait, ils sont racistes parce qu'ils ont un intérêt, enfin, ils participent au racisme parce qu'ils ont un intérêt et parce qu'ils peuvent le faire, en fait, parce qu'ils s'appuient sur des inégalités ethno-raciales qui sont à l'œuvre de manière collective dans notre société. Et là, typiquement, il y a cette histoire de immigré égal chômeur, qui est donc une mise en équivalence que je retrouve beaucoup sur mon terrain, et qui va avec des stéréotypes liés à la fainéantise, etc., au manque de volonté de travailler, etc. Et en fait, il y a deux choses. Il y a, premièrement, il y a un biais raciste dans la sélection, c'est-à-dire qu'on va se fixer sur les situations uniquement de chômage des immigrés. Donc moi, on dit, on les voit toujours au café, par exemple. Donc il y a certaines personnes qu'on voit au café, ou bien on connaît une personne qui, on l'identifie comme arabe et qui ne travaille pas, etc. Donc il y a une fixation sur les situations de chômage des immigrés, en invisibilisant toutes les autres, tout le travail en fait de la main-d'œuvre immigrée étrangère, qui en plus en PACA, enfin, le travail agricole saisonnier qui est vital pour cette région, le BTP aussi, parce qu'il y a une économie résidentielle, donc il y a énormément de maisons qui sont construites, etc. Donc c'est très important. Et là, la main-d'œuvre immigrée étrangère, elle est très très importante. Et ça, en fait, on n'en parle pas, c'est jamais évoqué. Donc il y a cette première sélectivité, on va dire, qui permet cette mise en équivalence entre immigrés et égal chômeur. Et par contre, ensuite, comme tu dis, c'est qu'en fait, cette mise en équivalence entre pauvreté, immigration et chômage, ils ne l'inventent pas. C'est-à-dire qu'en fait, quand on regarde, c'est compliqué d'avoir des stats un peu précises, mais quand on regarde les quartiers où il y a le plus grand taux d'étrangers et d'immigrés sur mon terrain, c'est aussi l'endroit où il y a le plus de RSA, où il y a le plus de demandes d'allocation, où il y a le plus de chômage. Et en fait, ça, il faut s'interroger du coup sur les logiques structurelles qui créent ça sur le marché du travail. Et donc, encore une fois, là, on voit qu'en fait, leur explicitation, elle s'appuie sur des structures qui sont réelles, qui sont en état objectivé du racial, comme je le dis. Et peut-être j'essaie de tout le temps un peu faire ça. C'est-à-dire que de dire comment certaines pratiques ou certains discours xénophobes sont permis par des logiques collectives. Et des logiques collectives auxquelles, tout le monde participe plus ou moins collectivement, juste. Un exemple, c'est par exemple, j'ai beaucoup discuté avec des commerçants. Il y a un artisan coiffeur qui me dit, nous, quand on voyait donc une personne qui est une personne arabe qui vient demander un devis pour la coiffure, on augmente le prix. On augmente les prix pour pas qu'elle puisse venir et pour pas qu'il y en ait dans mon salon. Je cite, pour pas qu'il y en ait dans mon salon de coiffure et donc pour que la clientèle reste blanche, en gros. Et il y a beaucoup de commerçants aussi qui me disent, en fait, j'essaye de faire en sorte que sur la terrasse de mon café, ça soit une clientèle qui soit la plus blanche possible, parce que sinon, je reprends les expressions, c'est pas agréable, les gens ils veulent pas venir prendre un café dans mon bar, et du coup ça va créer une perte de chiffre d'affaires, etc. Et donc bref, c'est une pratique discriminatoire, mais en fait, il y a une logique raciste à ça. Il y a une logique qui est de s'appuyer sur des logiques collectives. Parce qu'en fait, pour avoir discuté avec beaucoup de gens dans ce terrain-là, enfin dans ces quartiers-là, en fait, c'est vrai que les gens, ils veulent pas aller à cette terrasse où il y a des personnes qui sont identifiées comme turques et arabes. Et encore une fois, je pense que ça nous interroge nous-mêmes de chez quel coiffeur on va, à quelle terrasse on choisit très vite d'aller ou non, où est-ce qu'on s'assoit, etc. Donc, j'ai essayé toujours un peu de faire ça, de dire, comment, qui nous paraît très explicite, très violent, etc., c'est à remettre dans un contexte plus collectif et, encore une fois, pour ne pas s'auto-blanchir soi-même de notre participation à ces processus-là.
Correvano coi carri
e coi cavalli
le bighe e le tighe
e noi eravamo lì
agli angoli delle strade con le vesti stracciate
ma come dipinti
ora vi mascherate
ce le compriamo
con le vesti imitazione
del padrone
con quei quattro soldi che diciamo guadagnati
ma regalati
voi vi sudate tutto
ma il potere
il favore di un lavoro
ma il potere
quello che vi fa dire questo è mio di diritto
non c'è quel potere
con la casa imitazione
di quella del padrone
e i figli imitazione
del padrone
ma quella vostra crolla i figli ve li hanno rubati
la sua è di roccia i suoi figli abbronzati
e questa sarebbe la strada dell'incontro
non c'è più incontro non c'è più incontro non c'è più incontro bisogna fare come Giovanni Marini in tribuna. parlare, queste ipocrisie per piacere lasciamole stare. In cella le torture, in pubblico la dignità. No, grazie, no, no, grazie, no. Voglio parlare, chiaro parlare, voglio parlare, voglio parlare.
Ma quella notte volevo parlare, la pioggia, il fango e l'auto per scappare, solo a morire lì vicino al mare. Ma quella notte volevo parlare, e non può, non può, può più parlare, non più parlare.
Vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel avec l'émission Vive la Sociale. Vous écoutez l'enregistrement de la présentation du livre de Félicien Faury, Des électeurs ordinaires, organisé par la librairie Michel Firk le 28 mai dernier à la parole errante.
Quelle est, ben, ce que tu évoquais à l'instant, quelle est la logique rationnelle, enfin, quelle est la rationalité instrumentale, pardon, qui se cache derrière le racisme? Hein, c'est-à-dire, c'est un morceau du bouquin, vu que jusque-là, on ne l'a pas fait. On pourrait dire que, pour les électeurs interrogés, le problème n'est pas la ségrégation, la concentration d'immigrés et d'étrangers en un même espace urbain, mais en quelque sorte, son insuffisance. Parce que la ligne de couleur inscrite dans les territoires où ils résident n'est jamais totalement infranchissable, les électeurs guettent avec anxiété ces porosités. Et donc, en fait, ce que tu nous décris, c'est une volonté de ségrégation et d'apartheid renforcée, quoi, chez ces gens.
Oui, mais parce que, justement, ils ont l'impression qu'ils risquent de moins en profiter par rapport au fait que, contrairement à d'autres. Donc, je m'explique. Donc, effectivement, il y a tout un passage, donc c'est le deuxième chapitre, où ça porte vraiment sur la question de l'environnement résidentiel. Et je montre qu'il y a deux logiques. Là, premièrement, en fait, ils sont à côté de quartiers qui sont en voie d'appauvrissement, et avec souvent, pas seulement, mais aussi beaucoup de personnes qui sont donc immigrées, étrangers, d'origine immigrée, en tout cas supposées telles. Et effectivement, c'est qu'en fait, leur problème à eux, c'est pas du tout les cités qui sont loin. C'est en fait le fait que la cité se rapproche, que les quartiers se rapprochent, et avec la peur d'être soi-même rattrapé, comme ils disent, par ces quartiers-là. Et en fait, ça c'est un point important pour comprendre leur position. Moi, c'est un peu le truc qui m'a obsédé, c'est arriver à les positionner adéquatement à l'articulation des inégalités de classe et des inégalités ethno-raciales en gros. Et en fait, au sein des inégalités de classe, c'est pas les plus pauvres qui sont censés être les plus riches, donc qui sont dominés au sein des inégalités de classe. Mais en fait, au sein même des inégalités ethno-raciales, en fait, ils font partie du groupe majoritaire, ils se sentent français, etc. Mais ils ont l'impression que, ils ont une impression de devenir minoritaire. C'est-à-dire que leur statut de majoritaire est de plus en plus mis en question. Avec cette phrase de on n'est plus chez nous, mais qui traduit assez bien ce sentiment que un certain nombre de privilèges qu'on avait de se sentir dans un monde familier, ça vacille de plus en plus. Et donc il y a cette inquiétude qui est très forte et qui est aussi une inquiétude économique à nouveau. C'est pas juste un point de vue culturel, etc. C'est concrètement, je vais pas arriver à revendre parce qu'en fait, je perds de l'argent parce que le quartier s'appauvrit. Un des signaux de cet appauvrissement, c'est la présence de minorités justement visibles. Comment dire ? Et donc ça, je pense que cette question résidentielle, elle montre assez bien justement leur position qui est de dire ils sont dans le groupe majoritaire, mais à ses frontières en quelque sorte. Et c'est justement parce qu'ils sentent que ça se fragilise qu'ils vont être d'autant plus sensibles au discours qu'ils vont dire on va durcir ça, quoi. C'est-à-dire qu'on va mettre des barrières très très fortes et on va avoir cette volonté de ségrégation parce que justement, eux, ils n'ont pas le luxe comme d'autres personnes, de pouvoir profiter de la ségrégation, mais ne pas voter RN, en quelque sorte. J'exagère un peu, mais vous voyez l'idée. C'est-à-dire, eux, ils se disent, ben, en quelque sorte, on n'a pas le choix. On doit durcir les frontières du groupe majoritaire. Et ce parti peut nous aider. Donc ça, c'est sur la question de la démigration par le bas, en quelque sorte. Et en PACA, par contre, un autre point de vue, un autre point très intéressant, c'est que ce n'est pas du tout les campagnes en déclin à la... Donc Benoît Coquart, vous connaissez sans doute, qui a écrit un livre superbe sur du coup plutôt le Nord et ce qu'il appelle les campagnes en déclin. Et donc c'est des territoires qui sont oubliés, délaissés en fait. Et en PACA, et il y a souvent du coup cette image du vote RN comme vote des délaissés, etc. Et donc, et moi, ça m'a beaucoup servi de vis-à-vis les travaux de Benoît Coquart. Et voilà. Et en PACA, qui est quand même un bastion de l'extrême droite très très important, c'est pas du tout des territoires délaissés. Hein. C'est des territoires qui sont très très convoités, avec une, comme je l'ai dit, une économie touristique et résidentielle qui est très très importante, et avec notamment des migrations privilégiées, on pourrait dire. Donc des Parisiens, voilà, des Belges, des Italiens, des Américains, des Autrichiens, etc., qui viennent s'installer à leur retraite en région PACA, des professions libérales aussi qui viennent acheter des résidences secondaires ou qui carrément s'y installent, ce qui a pour effet de créer une pression foncière très très importante, pression immobilière très très importante. La région PACA, c'est la deuxième région la plus inégalitaire de France après l'Île-de-France. Et il y a vraiment ce que Piketty appelle une classe patrimoniale, c'est-à-dire des personnes qui sont très très dotées économiquement et patrimonialement et qui achètent dans ces endroits. Et c'est visible vraiment à l'œil nu, c'est-à-dire quand vous traversez la Côte d'Azur ou l'arrière-pays provençal, vous voyez les belles bagnoles, vous voyez les belles demeures, comme on les appelle, etc. Et ils sont dans ce que mes invités appellent les coins tranquilles, les coins sympas. Et le truc qui revient souvent, c'est bah du coup, c'est plus à nous, et en fait, les coins sympas, les coins tranquilles, on va plus pouvoir y aller parce que c'est trop cher, parce que des étrangers, donc pour reprendre l'expression qui revient souvent, achètent ces terres-là et font augmenter le prix. Et donc, en fait, il va y avoir une migration souvent populaire et extra-européenne, vécue comme menaçante par le bas, mais aussi une pression par le haut du fait de ces classes supérieures blanches, la plupart du temps, qui viennent s'installer en PACA. Et eux, ils ont vraiment l'impression d'être pris en tenaille entre ces deux logiques. Il y a un immobilisme résidentiel contraint. C'est vraiment on est coincé et je ne vais pas pouvoir vendre parce que le quartier se dégrade et du coup je vais perdre des plumes et je ne vais pas pouvoir déménager.
Enfin, comme toute enquête de terrain, un des intérêts du bouquin, ce sont les morceaux d'entretien, etc. Donc peut-être pour donner un brin de consistance à ce que tu viens d'expliquer, on peut leur rendre directement la parole. Donc là, si je ne me trompe pas, j'ai plus son profil en tête. Bim bam boum. Manique, employé de 57 ans, locataire de son logement. Donc je cite, en fait ce que j'aimerais ne plus en voir du tout, quoi. Ne plus en voir, c'est-à-dire des noms blancs. Hein. Oui, il faudrait que je trouve un endroit tranquille sans tout ça. Parce que là, je vous dis, en 3 ans déjà, ça a bien changé. Mais il faudrait un endroit où j'en ai les moyens. Et ça existe de moins en moins, comme par hasard, toujours. Dès qu'on trouve un endroit bien, mais qu'on peut se permettre, ils arrivent, ils s'installent, tous les commerces changent, ils rachètent.
Ouais, peut-être. Ça, c'était un entretien que j'ai fait chez donc Monique à son domicile, et c'est vraiment à la toute fin de l'entretien où bon, je le détaille pas trop, mais vraiment elle pose, elle se fait un café et elle pose et elle me dit en fait ça. Je crois qu'elle est très émue quand elle le dit, mais il y a vraiment cette idée de concurrence entre les pauvretés parce que justement elle, donc elle est locataire. Il y a beaucoup de personnes qui sont propriétaires de leur logement chez Maison Gutté, mais elle est locataire et elle est donc elle est en CDI. Encore une fois, elle est stable sur le marché du travail, mais c'est une personne qui a élevé seule ses enfants, elle le répète beaucoup, et notamment, elle a l'impression d'avoir pas touché à ses dettes sociales. Et la question des concurrences avec les autres familles, qui sont considérées comme trop nombreuses, ça revient très très souvent, avec des humiliations au guichet aussi, des personnes qui lui offrent pas les aides sociales auxquelles elle estime avoir le droit, et auxquelles elle a le droit de fait. Et ça joue aussi sur la question de la résidence, parce qu'en fait, effectivement, elle est dans la même classe sociale que beaucoup des personnes qu'elle considère comme... Donc c'est une personne qui a des propos très très durs envers les musulmans, les arabes et les turcs sur mon terrain. Et avec cette idée de justement, elle a le même niveau de vie, voire même, en fait, elle dit, ils rachètent. Mmh. Et ça, c'est important. C'est parce qu'en fait, il y a aussi des personnes qui sont considérées comme minorités et qui, par contre, ont les moyens, comme en fait, parce qu'il y a aussi des classes moyennes immigrées, qui en fait achètent, deviennent propriétaires. Et ça, en fait, c'est jugé comme absolument scandaleux et injuste, en fait, par ces personnes-là. Et c'est une personne, Monique, qui est... Parce que j'insiste sur le fait que le racisme, ça doit être conçu comme une domination exercée sur d'autres groupes sociaux. Mais il y a... Bourdieu, il a cette formule, il y a des personnes qui sont dominées par leur domination. Et Monique, il y a un peu de ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une personne qui, du fait de ne pas avoir les ressources sociales à la hauteur de ses désirs xénophobes, en fait, ça va la, beaucoup, beaucoup la travailler. D'où des formes un peu obsessionnelles aussi que l'on trouve dans les entretiens de ruminer ce, point, ce point-là.
Mais ça tombe bien parce que justement derrière, je voulais un peu élaborer sur le type de subjectivité que cette configuration produit. Enfin, typiquement, donc là, je pense qu'on a pas mal défini cette fraction des classes moyennes qui n'estime pas obtenir... la rente, enfin, ou en tout cas pas suffisamment, la rente qui est censée lui fournir la suprématie blanche. Et donc, il y a des formes de paranoïa assez saisissantes qui sont décrites dans le bouquin, de folie blanche. Je pense, par exemple, au CRS retraité, qui fait des mini-enquêtes chaque fois qu'une maison est revendue dans le quartier, parce qu'il est persuadé que si les Arabes peuvent les acheter, c'est grâce à l'argent des frères musulmans.
Enfin, oui, même, il dit... son voisin, il est... c'est une maison qui est très très chère. Donc il dit, donc là, il faudrait des grands frères musulmans pour pouvoir acheter parce qu'elle est vraiment très très chère. Donc c'est vraiment pas possible. Lui, c'est un point qui est intéressant, c'est souvent ce rattachement du racisme à l'ignorance, au manque de savoir. En fait, on ne voit pas assez à quel point il y a des volontés de savoir racistes. Et notamment, lui, bon, du coup, c'est une personne qui était policier, quoi, avant. Donc ça, je pense, ça rejoue un peu dans. Il recycle en quelque sorte ses dispositions. Mais c'est une personne qui, effectivement, va. Chercher à savoir, et ça c'est pas que lui, c'est un truc qui est très large. En fait, la personne qui est musulmane va avoir un doute sur son degré de radicalité réel. C'est-à-dire qu'en fait, c'est. Et ça, je pense, c'est une spécificité un peu de l'islamophobie, qu'on retrouve avec l'antisémitisme, qu'on retrouve aussi, je pense, avec l'homophobie. En gros, tous ces stigmates qui sont cachés en quelque sorte et qui sont à découvrir. C'est-à-dire qu'en fait, une personne, elle peut être jugée comme musulmane visiblement, mais ensuite, on va s'interroger sur. Le degré de radicalité et derrière le degré d'assimilation aux normes françaises, etc. Et donc lui, c'est une personne qui, en fait, il me dit, je fais des tests, donc ouais, il a son amiture, donc il voit que son amiture ne lui demande pas de se déchausser à l'entrée. Ses filles sont maquillées, ont des jupes. Donc du coup, c'est tout un ensemble d'indices qui, pour lui, fonctionnent comme une assimilation, en fait, et qui fait que, du coup, parce que le bon musulman, c'est un peu un non-musulman, en quelque sorte, dans ce type de cas-là, ou en tout cas un musulman qui est discret, qui est poli, qui n'en fait pas trop, qui n'impose pas sa religion. Et là, on retrouve beaucoup ce qu'avait dit le sociologue Abdelmalek Sayad sur le bon immigré, qui est justement un immigré poli, discret et non politisé. Et donc, effectivement, il y a cette idée de scrutation un peu quotidienne et un peu systématique vis-à-vis des populations et des groupes musulmans. Et ça, il me semble, je le retrouve même encore plus, je pense, à propos spécifiquement des musulmans. Et je pense que c'est une des formes que prend l'islamophobie, qui est de créer ce type de mise en suspicion un peu constante des personnes qui sont considérées comme musulmanes, qui vont toujours, en fait, avoir à prouver leur bonne intégration, leur bonne assimilation et leur distance avec le radicalisme. En gros, c'est pas... C'est parce que j'ai un chapitre sur l'islamophobie, et c'est... Il y a beaucoup de... Dans la littérature scientifique sur l'islamophobie, il y a beaucoup de travaux qui insistent sur l'islamophobie par le haut. Comment les médias, comment les politiques créent cette idéologie, ce racisme anti-musulman. Comment les élites fabriquent le problème musulman. Et voilà, moi, c'est un livre que j'ai...
Les élites françaises.
Les élites françaises, oui. Et il y a l'ouvrage, là, récemment, « La France, tu l'aimes, mais tu la quittes », qui porte aussi là-dessus. Et justement, là, moi, ce qui m'intéressait, c'est voir comment... C'est pas seulement le haut, mais c'est une production en quelque sorte. Et en fait, moi, ce qui m'intéressait, c'est comment ces discours, ils se greffent concrètement au corps social, c'est-à-dire comment ils se manifestent concrètement dans la vie quotidienne. Et donc, les entretiens que j'ai récoltés, ils me servent un peu à montrer comment, dans les interactions quotidiennes, dans la vie quotidienne, l'islamophobie, elle est activée, en fait, contre les personnes musulmanes, notamment les femmes, comme j'ai quelques passages là-dessus.
Ben écoute, tu m'as un peu mangé une partie de ma question suivante, mais c'est très bien. Mais du coup, ce qui est intéressant en plus avec l'islamophobie, c'est dans la matrice idéologique que tu cartographies, ça a un rôle ambigu, dans le sens où c'est d'un côté un racisme respectable qui est plus assumable que les autres, mais aussi c'est une espèce de clé de voûte qui va faire tenir ensemble différents pans de la racialisation, notamment parce que ça permet certaines chaînes d'équivalence particulières qu'on prenne deux secondes pour les regarder. Enfin, immigré égale arabe égale musulman égale non blanc. Peut-être essayer de caractériser un peu c'est quoi cette spécificité de l'islamophobie et de ce racisme à la fois central mais rendu respectable.
Ouais. Alors peut-être sur chaîne d'équivalence, donc c'est un terme initialement de Laclau et Mouffe, mais qui a été beaucoup repris par Stuart Hall, qui est un des auteurs que j'ai le plus utilisé, je pense, dans ma thèse et ensuite dans le livre. L'idée de chaîne d'équivalence, c'est, si j'essaie d'extrapoler, c'est que la politique, c'est pas seulement mettre en avant un seul thème. C'est quelque chose qu'on entend beaucoup de... Par exemple, le RN, il serait arrivé à imposer une idée qui est celle de l'immigration. Moi, je pense que ça fonctionne pas du tout comme ça. La politique, c'est de mettre en équivalence différentes thématiques. En fait, la force du RN, c'est d'avoir mis en équivalence l'immigration avec d'autres thématiques, donc l'insécurité, mais aussi des thématiques sociales, voilà, le fameux immigré égale chômeur, ces outils de mise en équivalence. Et donc, en fait, le but du travail idéologique et du travail politique, c'est pas de mettre en avant un thème, mais c'est justement de mettre en lien différentes thématiques qui composent la vie des individus et de les relier dans le sens commun, de manière presque évidente pour les individus. C'est d'ailleurs ce qui distingue peut-être une association d'un parti politique, quoi. C'est-à-dire qu'une association, c'est sur un thème particulier, et le parti politique, justement, il va faire des jonctions entre les différentes thématiques qui composent la vie des individus. Et moi, ces chaînes d'équivalence, ça m'a beaucoup parlé parce que... Et ça, c'est, je pense, l'avantage de l'entretien. C'est-à-dire qu'en fait, dans l'entretien, des fois, je marquais « il déroule ». C'est-à-dire qu'en fait, la personne commence par une anecdote, par exemple, et ensuite, il y a un tunnel, quoi, d'un peu long, mais en fait, tout le monde fait ça, c'est pas que les électeurs RN, c'est-à-dire tous les entretiens qu'on fait, les personnes se mettent à faire des relations d'idées, justement, et ça, c'est très intéressant, parce qu'on voit le sens commun, les chaînes d'équivalence se mettre en place automatiquement. Et ensuite, on peut décomposer et dire, ah ben voilà, quand il évoque des immigrés, bah, du coup, il va avancer à la question de la sécurité, et ensuite, on va dérouler, souvent, ça arrive jusqu'à la question du terrorisme, de l'islamisme, etc., qui peut embrayer aussi sur des enjeux socio-économiques. Encore une fois, peut-être juste ce point sur l'islamophobie, on le met souvent du côté identitaire du culturel, mais encore une fois, ça a des conséquences économiques pour les individus. Moi, on m'a dit, en fait, le quartier, il est en train de perdre de la valeur, et on le voit parce qu'il y a des personnes qui sont voilées à la société des classes, dans tel ou tel café, etc. Et donc, du coup, il y a des raisonnements économiques qui se greffent à ces enjeux culturels. Et après, il y a la question de la spécificité de l'islamophobie au sein des processus de racialisation que j'examine. Ça, c'est une question compliquée. Parce que d'un côté, moi, très souvent, le terme de musulman, il était utilisé comme synonyme d'arabe, de turc, d'immigrés, de personnes d'origine maghrébine, etc. Et en fait, souvent, le religieux, c'est une manière de dire le racial. Comme parler de français, en fait, ça ne désigne jamais les français au sens strict du national et de l'étranger. Le terme de musulman, ça désigne bien au-delà des seuls musulmans, la plupart du temps. Et de même, donc les électeurs du RN, quand on regarde les stats sur la religion, c'est des catholiques, mais non pratiquants. Les catholiques pratiquants, ils votent pas, très très peu. Et c'est vraiment les catholiques non pratiquants, ou bien les athées, mais souvent les personnes de culture chrétienne, on va dire, qui votent RN. Et moi, ce que je remarque dans les entretiens, c'est que le référent religieux pour s'auto-désigner, il émerge très peu au départ. Et par contre, des fois, il émerge pour, justement, on va se dire chrétien par opposition au groupe qu'on va désigner comme musulman, par différence et souvent par hostilité. Et c'est une référence davantage culturelle plutôt que culturelle. Et d'ailleurs, je fais une hypothèse qui est que plus il y a une sécularisation, une déchristianisation de nos sociétés, plus le religieux sert de proxy, comme on dit, d'équivalent du racial. Et je pense, en sociologie du vote, il y a souvent deux variables lourdes, il y a la classe sociale et la religion. Moi, j'ai l'impression que souvent, maintenant, en fait, quand on s'interroge sur la religion, ce qu'on capture, c'est peut-être des enjeux raciaux. Mais vu que ça, on ne cherche pas à le mesurer pour l'instant dans les grandes enquêtes, on sait pas encore. Et je m'arrête là. Ouais. Donc, du coup, sur la spécificité de l'islamophobie, en fait, c'est que d'un côté, le racisme anti-musulman, ça peut être un racisme tout court, en quelque sorte, et on utilise juste le référent religieux parce qu'il est plus légitime, mais ça, on veut parler en fait des minorités ethno-raciales. Et par contre, il y a quand même des spécificités, me semble-t-il. En fait, la pratique religieuse donne des prises différentes et plus fortes peut-être à la racialisation. Premièrement, je l'ai dit avec cette idée du caché, donc du radicalisme caché, qui je pense est un moteur à beaucoup de fantasmes, de parano, etc. Et par ailleurs, il y a quand même des faits de porter le foulard, ou le fait par exemple de ne pas boire d'alcool ou ne pas vendre d'alcool dans les cafés. Moi, il y a un passage, enfin dans ce chapitre, j'insiste beaucoup sur un exemple qui est beaucoup revenu sur mon terrain. En gros, il y a un bar dans le centre-ville, qui était un bar d'entre-soi masculin, ouvrier, pendant très longtemps, et qui est toujours maintenant un entre-soi masculin ouvrier, mais beaucoup plus non-blanc. Et ça a été racheté notamment par un propriétaire musulman, et il ne vend plus d'alcool. Et c'est le bar central du centre-ville d'une des villes que j'étudie, et c'est un exemple qui revient en permanence. De rendez-vous compte, déjà, on n'a pas envie d'aller dans ces terrasses parce qu'il y a en gros des personnes turques et arabes qui y sont. Et en plus, ça ne vend pas d'alcool. En plus, c'est devant l'église, donc après le mariage, on ne peut pas aller boire un coup en face, etc. Et donc, c'est vécu comme un pur scandale et qui revient beaucoup, beaucoup dans les conversations. Comme quand même, c'est dingue. Et vraiment, là, on n'est plus chez nous, il y revient beaucoup. Et y compris dans les villes aux alentours, on me parle de Ferran, du coup, la ville, comme la ville au centre-ville sans bière, quoi. Et donc, du coup, c'est une... Et en région PACA, c'est très important. Parce que vu qu'il y a une concurrence très forte entre les territoires, les villages de caractère, etc., la Ferran, c'est une ville, non seulement où il y a une énorme zone commerciale, donc en gros, c'est moche, quoi. Enfin, c'est ça qui revient beaucoup. Et en plus, il y a ce centre-ville, on peut pas boire une bière, etc. Et donc là encore, il y a des enjeux vraiment matériels à cette présence. Juste pour terminer sur du coup le faubourg, là, le bar dont je disais, on m'explique aussi beaucoup qu'il y a très peu de présence féminine. Donc on me dit il y a vraiment très très peu de... Depuis que le commerçant est musulman, il y a très très peu de clientèle féminine, c'est pas agréable d'aller s'asseoir, etc. Et j'ai discuté avec j'ai retrouvé en fait l'ancien gérant du bar, et qui me dit très franchement, bah du coup c'est pas à cause des foulards, hein, parce que nous, à l'époque, il n'y avait aucune femme non plus, parce que c'était très très compliqué, il n'y avait vraiment que des hommes à l'époque. Et donc, là aussi, on voit comment l'argument de la mixité de genre, il peut être utilisé avec des illusions rétrospectives à des fins islamophobes ou voilà, de rejet.
C'est 20 ans, le sous le sol, et ici, aprira, tout le monde, moi ici, ça verra. C'est le ventaglio sul sole, non si apre più, è la fine dell'umanità.
Credevamo di sentire grazie per le nostre divise bagnate, per il tentativo di dar loro guerre giuste o in parte giustificate, per come inseguiamo gli scafisti, per le cortesie che essi mai ebbero, per le attenzioni che abbiamo nel non ucciderli come meriterebbero. La sera diamo minestre ai bambini, giochiamo in spiaggia a pallone, e ogni sera è dolce lavoro imparare il pallone con loro.
Credevano di sentire grazie i medici terzi a insegnare la vita, dopo darvi nel coccodrillo sulle sponde del lago Tanganica, medicando carne da lepra, da AIDS ed altre crudeltà della storia, senza chiedere può esserci storia dove c'è solo tribù.
E dopo la mina la donna incinta non aveva più gambe, ma il ventre enorme pulsava e Charles l'accarezzava, l'accarezzava.
E quella carezza divenne un ventaglio sul sole, un volo di mille locuste sopra i nostri giudizi, le nostre parole, un vento nuovo nei pensieri, che diceva le cose da fare, quali invece tacere, le anime da costruire, con cuore, saggezza, dovere, gli uomini senza confini, per quali tormenti e piaceri, e come restare lontani e vicini alle cose di oggi, domani e di ieri.
Vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel avec la mission Vive la Sociale. Vous écoutez l'enregistrement de la présentation du livre de Félicien Faury, Des électeurs ordinaires.
Peut-être pour donner un exemple un peu justement d'une personne qui déroule des chaînes d'associations de plus en plus délirantes sur base d'islamophobie. Là, donc, c'est une mère de famille qui parle d'une amie de sa fille qui est à l'université, qui donc est éduquée et intelligente, et qui donc, si elle porte le foulard, ne peut pas le faire par obscurantisme, soumission, etc., etc. Et du coup, quand cette mère parle de l'amie de sa fille, ça donne quelque chose comme ça. Ce n'est pas juste de la provocation, parce que finalement, si c'était de la provocation, ça se serait peut-être qu'un temps donné, mais ça dure. Ça dure et ça s'amplifie. Il y a ce retour à vouloir affirmer. Alors affirmer, c'est une chose, mais vouloir imposer, c'est une autre. Parce que qu'ils affirment leur religion chacun chez eux, en groupe, qu'ils se retrouvent, mais vouloir l'imposer aux autres, non. Et c'est ça qui fait que le temps des croisades, tout ça, c'était ça aussi. C'était vouloir imposer à l'autre la religion, la seule. Voilà, enfin, peut-être pour donner un peu à toucher un peu dans concrètement quelle forme ça prend, quoi.
Oui, comme vous pouvez le voir, c'est des très réjouissants les extraits entretiens qu'on retrouve. Mais et à chaque fois, j'ai sélectionné pour que ça soit justement, pour qu'il y ait à chaque fois, je l'espère en tout cas, un intérêt analytique pour justement voir comment, là on part d'une anecdote qui en fait, voilà, elle parle d'une amie de sa fille, et ça, et vraiment, en plus là je pense j'ai fait des coupes, mais en gros, il y a tout un ensemble de relations d'idées, et c'est très utile pour décrypter un imaginaire et comment fonctionne un imaginaire, où là ça termine par le temps des les croisades, la métaphore des croisades, etc. En plus, c'est une personne qui est athée, là, pour le coup, et pour qui c'est très, très important, cette dimension. Et donc, la métaphore des croisades n'est pas anecdotique. Et juste pour terminer sur cet exemple, la manière dont sont qualifiées les femmes musulmanes sur mon terrain, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans la littérature, mais il y a un peu deux manières de qualifier les femmes musulmanes qui sont potentiellement contradictoires, qui est d'une part les décrire comme des personnes qui sont soumises, notamment à leur entourage masculin, et d'autre part, au contraire, de les voir comme des personnes qui pas du tout soumises, mais qui sont actives, mais du coup prosélytes, qui ont une agency, comme on dit en quelque sorte, mais une agency dangereuse, parce que du coup elles sont prosélytes, le voile c'est une manière de participer à une guerre larvée, etc., etc. Et en fait, on a un peu ces deux discours qui cohabitent, mais moi, là où j'essaie de... c'est que c'est pas une distribution au hasard entre ces deux discours. Et là, typiquement, en fait, c'est une amie de sa fille, mais du coup qui fait des études de médecine, et qui insiste beaucoup, et c'est une personne donc qui élève ses enfants, enfin qui effectue un travail domestique très important parce qu'elle n'a pas de travail salarié, mais du coup elle est très investie dans l'éducation de ses enfants, etc. Donc la question scolaire, c'est une question très très importante pour elle. Et donc là, l'exemple de Siam, il revient beaucoup parce que Siam, elle est très intelligente, elle a eu le bac avec un an d'avance, etc., etc. Et là, du coup, c'est pas possible de la catégoriser comme une personne musulmane soumise à son entourage masculin, etc. Et du coup, le qualificatif qui va venir, c'est justement la menace, le prosélytisme, la surpolitisation, en quelque sorte, du fait qu'elle porte un foulard. Et ça, ça me semble important, c'est-à-dire même de manière plus générale. Ça va être les personnes les femmes musulmanes qui ont du pouvoir, institutionnel, syndical, artistique, j'en sais rien. C'est à partir du moment où elles commencent à avoir du pouvoir, où l'accusation de prosélytisme, elle va être activée. Alors quand c'est les personnes qui sont démunies, ça va être l'action de l'accusation de soumission à leur entourage masculin, de « elle n'est pas libre », etc., qui va émerger. Et ça, je le retrouve dans ce type de cas un peu concret.
Oui, sachant que là encore, on rejoint un peu ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire cette paranoïa blanche qui voit une menace, alors à minima une provocation, voire une menace dans la simple existence d'individus qui ne correspondent pas à la majorité blanche et à ce qui est identifié comme ses us et coutumes. On va peut-être avancer parce que, mine de rien, l'heure tourne. Je me permets quand même de glisser parce que, pour le coup, ça c'est un truc dont j'ai été fort surpris en préparant cet entretien. C'est pas ton travail, mais dans ce bouquin-là, il y a un chapitre aussi qui décrit à peu près des stratégies proches de mobilisation de la religion et plus exactement de la chrétienté sur un mode plus ou moins patrimonialisé, c'est-à-dire pas forcément une pratique régulière, mais plus une identification un peu lâche, comme proxy pour une espèce de blanchité honorifique, c'est-à-dire qu'on va avoir au sein, donc c'est une enquête, au sein du 18e dans le Nord parisien, parmi des classes populaires, très populaires pour le coup, des électrices congolaises qui, du fait de leur chrétienté, vont s'identifier à la majorité blanche et voter RN. Quoi. Encore une fois, ça, ce truc de religion comme proxy pour la race, on le retrouve ailleurs.
Non, juste un point, c'est qu'effectivement, le vote RN qu'on dit anti-système protestataire, en fait, souvent, moi, ce que je remarque, et on le remarque effectivement dans ce que je dis, c'est aussi un vote d'intégration. C'est-à-dire que, et notamment, moi, il y a une personne qui est donc franco-brésilienne dans mon livre, et tout le discours, et qui a vécu du racisme à son arrivée en France, en gros. Et tout son discours et son vote RN, on retrouve cette mise à distance de minorité du pire, c'est-à-dire comme minorité pire que soi, et ça permet, en fait, en se mettant à distance, de faire partie du groupe majoritaire et donc d'essayer de se sauver et de ne pas être assimilé à ces minorités qu'on juge justement inassimilables. Et le vote RN, c'est très bien pour ça en fait. C'est-à-dire que si vous voulez être plus royaliste que le roi, enfin plus nationaliste que les nationaux, quoi, bah, du coup, le vote RN, c'est très très bien parce que vous prouvez que vous êtes vraiment français. Quoi. C'est-à-dire quoi de plus français que de voter RN. Donc en fait, ça vous permet de vous intégrer au groupe majoritaire en mettant à distance les minorités du bien. J'insiste juste sur un point, parce que là, on assiste beaucoup sur... C'est pas rien que l'a appelé des électeurs ordinaires, ce livre. C'est-à-dire qu'en fait, c'était pour rappeler dès le titre. En fait, c'est pas... J'ai pas choisi les pires morceaux, les plus hardcore ou je sais pas quoi. C'est qu'en fait, c'est le discours qu'on entend très, très régulièrement et émis par des personnes qui sont pas politisées, qui sont pas des fanatiques, qui sont pas des idéologues, etc. Là, on est du discours commun, très largement partagé, et qui n'est pas considéré comme extrémiste ou comme choquant, en fait, par la plupart des personnes.
Mais écoute, c'est magnifique. Tu me fais ma transition pour moi. Je te remercie. Parce que justement, enfin, on va peut-être bouger sur des points peut-être moins abordés du bouquin avant de peut-être laisser la place à des questions. Parce que de fait, toi, tu dis volontairement vouloir te concentrer sur ces représentations, ces schèmes racistes qui sont produits ou qui circulent au sein des groupes sociaux et des réseaux de sociabilité que tu analyses. Et de fait, un des acteurs que d'instinct on lirait à cette normalisation des discours racistes est quasiment absent du bouquin, c'est-à-dire à aucun moment tu ne parles de médias, si ce n'est de temps à autre pour remarquer à quel point ils ont peu ou pas d'influence. C'est-à-dire que tu constates que même chez des racistes encroûtés en 2022, tout le monde ne sait pas qui est Zemmour et on ne sait pas s'il est suffisamment raciste pour lui faire confiance. Tu constates que si tout le monde se représente, encore une fois, cette passion migratoire des élites, personne n'utilise le terme de grand remplacement, etc. etc. Donc, est-ce que c'est de fait qu'il n'y avait pas de traces de CNews, de BFM ou quoi dans tes entretiens, ou est-ce que c'est plus par du fait de ta focale que tu as un peu mis ça de côté? Enfin, typiquement, je peux me tromper, mais Jean-Pierre, le CRS à la retraite, entre lignes, on comprend qu'il y a F de souche.
Ben ça, je ne sais pas, par exemple. Et toute la question, c'est est-ce que F de souche, c'est pas... Est-ce qu'il lit pas Jean-Pierre en quelque sorte? C'est-à-dire à quel point on adopte un point de vue diffusionniste ou non? Ça, c'est un point très important, mais qui est pas que j'ai pas tranché et que peut-être je vais développer maintenant, c'est que effectivement je parle assez peu des médias pour deux raisons. Premièrement, c'est une faiblesse, je pense, de mon travail, c'est-à-dire que j'étais vraiment dans le truc de, on parle beaucoup de la normalisation du RN par le champ politique, par le champ médiatique. Il y a beaucoup de travaux là-dessus, beaucoup de discours là-dessus. Moi, je vais m'intéresser aux interactions quotidiennes, à la manière dont ça se passe sur le terrain, etc. Donc très sociologue, enquête de terrain, etc. Et la question des médias apparaît peu spontanément dans les entretiens et j'ai pas relancé énormément. C'est vrai là-dessus. Et donc j'ai je l'ai fait pour certains électeurs et électrices, et c'était pas du tout systématique. Et donc j'en ai pas fait une partie à part entière dans le livre. Après, il y a une question qui est plus fondamentale. Et qui est que, évidemment, les médias, ça a un effet. C'est un effet d'entretien de l'idéologie raciste, islamophobe. C'est un effet d'activation, de légitimation de ces sujets-là. Moi, je pense qu'il y a un effet, parfois, d'agacement de ma part, qu'on retrouve beaucoup à gauche, en fait, de dominocentrisme ou de médiacentrisme. C'est-à-dire que de dire que ça vient des médias, etc. Et donc je pense que c'est en partie vrai, mais à minima c'est une co-construction, et pour le dire très simplement, c'est pas CNews qui a inventé le racisme. C'est-à-dire qu'en fait, le racisme, c'est un phénomène, du coup, multiséculaire, qui a des racines très très profondes et qui prend des modalités différentes. C'est une invention de dominant, ça historiquement il faut évidemment le dire, et c'est entretenu par des personnes qui ont le pouvoir de l'entretenir à grande audience. Mais j'insiste énormément tout le long sur la transversalité du racisme, du fait qu'on trouve du racisme sous des formes différentes dans les milieux bourgeois, dans les milieux avec du pouvoir, dans les petites classes moyennes, dans les classes populaires, etc. Mais derrière ça, il y a un peu dans ma tête l'idée de nuancer le diffusionnisme de c'est parce que ça n'existerait pas en haut qu'ensuite ça se diffuserait au sein de la population. Et à tout le moment, ce qu'on peut dire, c'est que les personnes que j'ai croisées, elles sont actives dans la participation à cette idéologie. Et j'ai effectivement un truc sur le grand remplacement. Donc je pense qu'il y a un effet de période, parce qu'en fait, moi j'ai vraiment commencé en 2016-2017, donc il y avait que Renaud Camus qui parlait du grand remplacement, enfin, et ses sbires. Du coup, moi, personne ne lit Renaud Camus parmi les enquêtés, je veux dire, personne ne sait qui c'est. Et ça n'avait pas été encore popularisé par Éric Zemmour, et repris plus ou moins par d'autres personnes. Mais par contre, ce que je dis, c'est que l'idée de grand remplacement, elle est fondamentale dans tous les discours que j'ai récoltés. L'idée de, oui, on n'est plus chez nous, on est remplacé, il y a une contre-colonisation, en quelque sorte, etc. C'est quelque chose que je retrouve. Et donc la question, c'est est-ce que c'est pas aussi Renaud Camus qui a très bien exprimé une crainte blanche de, il a son château en la campagne, je crois, et du coup, il a vu arriver des immigrés, et du coup, il a vu qu'il c'est une personne littéraire, il a créé avec ses moyens une formule pour désigner cette crainte blanche que moi, avec leurs moyens, ils expriment différemment. Et du coup, moi, ce qui m'intéressait, c'est ça. C'est comment certains motifs racistes, on les retrouve de manière différente à différents étages de la société. Voilà, c'est pour te répondre. Après, c'est pas quelque chose que je dis maintenant, mais c'est évidemment que j'ai pas que la critique des médias, elle est très très importante, quoi. Et que c'est un rôle. Mais en tout cas, je l'ai pas identifié. Je pense épistémologiquement, il faut faire attention à ça, il me semble.
Je ne sais pas si il y a des gens dans la salle qui ont eu le plaisir de lire Renaud Camus dans le texte. Résumé rapide, pour le coup, c'est il raconte comment une fois il a vu un noir et ça l'a perturbé.
C'est littéralement ça.
c'est assez fascinant en termes de niveau de conceptualisation.
Il est disponible en PDF. Gratuitement sur le net, je crois.
Si vraiment vous n'avez rien, mais absolument rien de mieux à faire. Bon, mais on peut peut-être, alors pas tout à fait finir, mais continuer donc sur le deuxième facteur, que là tu as aussi évoqué, deuxième acteur qui est absent du bouquin, et ça, pour le coup, c'est un choix méthodologique qui est complètement assumé, les politiques, et ce d'autant que, si j'ai bien tout compris, corrige-moi si je me trompe, pour le coup, dans ta thèse, c'était traité. Enfin, en tout cas, l'offre électorale.
Ouais, la deuxième partie de ma thèse, c'est sur l'offre militante et politique.
Mais parce que du coup, tu finis le bouquin en expliquant que étudier le Rassemblement national, comprendre ses électeurs, c'est aussi se rendre compte que ceux-ci ne penchent vers l'extrême droite que parce que le monde dans lequel ils vivent penche avec eux. Ça amène quand même la question de savoir qui fait tanguer ou pencher ce monde et dans quelle mesure. Alors, encore une fois, ça c'est pas directement traité dans le bouquin, mais de ton étude, de ta thèse, qu'est-ce que tu en as retenu?
Alors, ça va me permettre de dire deux choses. Premièrement, de nuancer ce que j'ai dit tout à l'heure au sens où les médias sont pas du tout présents, parce que quand même, ils connaissent Marine Le Pen. Et en fait, ils en entendent parler Monique, dont on parlait tout à l'heure, elle me dit, donc c'était une personne qui était abstentionniste, et elle me dit, j'ai vu Marine Le Pen à la télé, j'étais d'accord avec ce qu'elle disait, et elle s'est mise à devenir fan un peu de Marine, parce que beaucoup de personnes l'appellent par son prénom. Et du coup, elle se met à suivre beaucoup Marine Le Pen et à voter pour le RN, y compris aux élections locales où elle connaît pas les candidats. Mais du coup, Marine fait foi, en fait. Donc, elle vote pour le parti de Marine Le Pen. C'est le cas de beaucoup de personnes que j'ai rencontrées. Et en fait, il y a une personnalisation du truc. Donc, en fait, là, c'est via les médias. Mais du coup, c'est via la télé, le plus souvent, ou la radio. Et donc, l'identification de Marine Le Pen comme personne politique pour laquelle on va voter, ça, c'est quelque chose qui est très important et qui est très, très présent. Et le discours de Marine Le Pen, c'est-à-dire que c'est des personnes qui, là aussi, c'est faux. C'est pas des personnes qui se trompent. Je pense qu'il y a tout un ensemble de malentendus entre les électeurs et le RN, et le programme du RN sur la question de classe, on va dire. Mais par contre, sur cette question migratoire ou raciale, en fait, je pense qu'ils savent ce qu'ils font, en fait. C'est-à-dire qu'ils savent pour qui ils votent. Ils sont en accord, en fait, avec beaucoup de choses qui sont dites. Et tout ça, et donc ça pour dire qu'en fait l'ERN quand même ça fait des décennies qu'il s'adresse aux classes moyennes et aux classes populaires blanches avec un message très clair, très et constamment renouvelé. Mais constamment renouvelé, mais avec la même, le même noyau dur. Et donc ça, en fait, ça compte. C'est-à-dire que c'est des personnes qui, bah, du coup, se reconnaissent dans ce message-là. Et donc ça, c'est un point important au sens de bah, c'est une promesse électorale qui est reçue comme telle. Et il y a tout un contexte idéologique qui fait que la promesse électorale qui est de dire en appauvrissant une partie de la population, les minorités ethno-raciales, vous, votre situation sera meilleure. De fait, ils peuvent être d'autant plus tentés de les croire qu'on est dans un contexte idéologique où beaucoup de personnes attestent de ça, quoi, et pas uniquement le Rassemblement national. Donc l'offre politique, la question de l'offre politique, elle compte beaucoup dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'une offre exposée médiatiquement et auquel, du coup, les médias laissent une place grandissante. Après, il y a la question des militants de terrain. Et là, c'est plutôt dans ce livre-là où on parle un peu de ça. Un des résultats un peu cumulatifs sur le Rassemblement national et sur les structures militantes du Rassemblement national, c'est que, en gros, c'est un parti qui n'est pas implanté, qui est peu implanté. Il parle beaucoup de partis des territoires, etc. Mais en fait, il y a très peu de structures locales très fortement implantées. Même si c'est peut-être en train de changer depuis 2022, qui est vrai, les élections législatives, où ils ont 89 députés, mais ça veut dire des collaborateurs parlementaires, des ressources, etc. Donc là, ils vont pouvoir y aller. Plus les mairies, depuis 2014, dont plus de la moitié a été renouvelée en 2020. Ce qu'il a aussi, en termes de vote dégagiste, en fait, ou anti-système, en fait, quand il y a des mairies RN, elles sont réélues dès le premier tour pour la majorité. Donc c'est pas un vote purement dégagiste tout le temps, on va dire. Et par contre, en termes voilà, de militantisme propre, c'est qu'on n'est pas du tout dans le PCF de ces heures de gloire. C'est-à-dire qu'il y a, très peu d'implantations locales, c'est un parti qui est très 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 centralisé à Paris. Et il y a des voilà, il y a des antennes locales, mais il y a des territoires où vous n'avez pas de permanence RN du tout, et vous avez des scores très très importants pour ce parti-là. Donc ça aussi, c'est un point, un truc qui est un peu, je ne sais pas à quel point c'est désespérant ou non, mais en fait, c'est pas la structure militante et le nombre de militants qui fait voter ces personnes-là. Et par contre, il y a Guillaume Le Tourneur, qui est un collègue qui a beaucoup insisté sur le paramilitantisme. Vous avez des personnes qui ont une influence locale, des responsables associatifs, des commerçants, des petits patrons qui font tourner un lieu, etc., qui vont avoir des idées d'extrême droite et qui vont participer à le diffuser. Benoît Coquart, il insiste aussi sur ces choses-là. Donc voilà, donc il y a un peu un côté, le parti, il a des succès malgré lui, en quelque sorte. Même si la prouesse du RN politique, c'est d'arriver à garder le monopole sur la famille politique de l'extrême droite. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les scissions du RN, ou même Zemmour, donc voilà, ça n'a rien fait. C'est-à-dire que c'est le parti qui reste, qui a survécu à toutes les scissions et à toutes les concurrences au sein de l'électorat d'extrême droite.
Ouais, voire même pour Zemmour, ça aura permis de récolter toute une partie de la bourgeoisie, notamment parisienne, de l'Ouest parisien, qui, par distinction sociale, justement, n'aurait jamais voté pour le parti de Ploug des Le Pen. Ouais. Et qui, bon, enfin, Zemmour, il est éduqué, il est distingué, n'est-ce pas ? Et qui depuis, par contre, se sont ralliés au vote.
Alors, il faudrait voir à quel point on va avoir précisément les reports de voix, mais effectivement, il y a une familiarisation des milieux bourgeois, point de vue de les fractions économiques, au vote d'extrême droite, et aussi des catholiques pratiquants. Parce que j'ai vu, il y a 20%, je crois, des catholiques messialisants, enfin, qui vont à la messe, qui se sont mis à voter Zemmour, ce qui est très très important, sachant que le vote catholique pratiquant, comme je l'ai dit, historiquement, ne porte pas, enfin, porte vers la droite et pas vers l'extrême droite. Donc là, on a effectivement, Zemmour, il a aidé à la normalisation par indirect, comme tout le monde le dit. Il y a aussi des enjeux de classe et de religion très, très importants.
Oui, ça va être très drôle quand les LR seront à moins de 5%. Là, on va rire. Du coup, pour ne pas finir dépressif et alcoolique, on va peut-être essayer de voir, de réfléchir. Et là, je vais me faire une joie de te faire sortir de ton rôle de chercheur. Quelle prise ça peut peut-être nous donner, notamment tu vois, sur ces enjeux de normalisation, ce que tu disais dans des contextes informels et sociaux. Est-ce qu'il y a des stratégies de stigmatisation qui pourraient rendre le vote RN ou les discours racistes qu'ils sous-tendent de nouveau, enfin, honteux, peut-être pas de nouveau, encore eût-il fallu qu'il l'ait jamais été, ce qui est loin d'être une évidence, par exemple si on parle d'islamophobie. Comment est-ce que, après 10 ans sur ce type de sujet, tu as des débuts de pistes pour des gens qui voudraient s'opposer à la fascisation en cours ?
Bon, je suis vraiment pas très doué pour donner des leçons aux militants de terrain. Premièrement, vis-à-vis des classes populaires blanches et classes moyennes blanches tentées, séduites par le Rassemblement national, il faut continuer, et de manière ambitieuse, à parler à leurs intérêts de classe. Ils ne votent plus en tant que classe populaire blanche, par exemple, mais en tant que classe populaire tout court. Donc il y a ce premier point. Et ensuite, il faut s'attaquer effectivement au racisme. Et c'est pour ça tous mes trucs de dire il faut pas... J'insiste beaucoup. Donc moi, j'écris jamais qu'ils sont racistes. Premièrement, parce que j'aime pas le verbe être lorsqu'il s'agit d'individus. Et parce que ça me semble important, mais y compris sociologiquement, de pas dire que des individus, par essence, seraient racistes. Et surtout, déduire ça de leur vote. Parce qu'en fait, un vote pour un individu qui s'intéresse pas trop à la politique, comme la plupart des gens... en France, c'est un peu rien, quoi. Ça, c'est un peu une bonne nouvelle, hein. C'est-à-dire que c'est des personnes qui vont pouvoir changer, pas tous hein, et toutes, mais c'est des personnes qui peuvent changer d'orientation électorale sans problème, quoi. C'est pas des personnes qui sont accrochées à leur vote complètement. Et par contre, j'insiste beaucoup sur le fait qu'il faut continuer à dire que le vote RN, lui, est nourri par le racisme. Pourquoi ? Parce que je pense qu'il faut continuer à rendre le racisme honteux et continuer à chercher à augmenter la réprobation sociale du vote RN. Que ça soit pas OK. Moi, un truc qui m'a frappé sur mon terrain, c'est à quel point il y a des consensus locaux qui se mettent en place sur un peu tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure et qui sont jamais brisés. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais personne qui va dire ça, c'est pas OK. Quoi. Et en fait, ça, c'est ça un peu qui, je pense, qui manque. Et c'est aussi, du coup, les personnes... moi, j'avais parlé un peu d'antiracisme ordinaire. C'est un peu ça qu'il faudrait arriver à mettre en place. Il y a des contre-discours qui se diffusent aussi et qui rendent davantage, à tout le moins clivant, certains discours et non normalisés et qui tombent sous le sens. Et peut-être un dernier point, mais ça, j'en parle pas dans le livre, mais un point d'optimisme. S'agissant de la question raciale, le vote RN, c'est aussi un vote de réaction à tout un ensemble d'émancipation et de progrès qui ont été faits en fait en la matière. Ça, je le développe pas, mais je pense qu'on pourrait être très... L'extrême droite se développe à partir des années 80-90 dans toute l'Europe. Après, et je pense que c'est une réaction à la décolonisation. C'est-à-dire que vous avez d'un côté des inégalités capitalistes qui se creusent, et en même temps, vous avez ce phénomène majeur dans l'histoire européenne qui est la décolonisation. Et du coup, il y a une posture ensuite défensive qui se met en place et il y a des scores de plus en plus importants pour l'extrême droite. Et moi, je le vois bien qu'en fait, il y a toujours, c'est un peu une réaction à certaines personnes de, ils se croient chez eux, mais parce qu'en fait, ils le sont. Et donc, du coup, mais c'est à partir du moment où justement les personnes ne s'excusent plus et vivent comme ils l'entendent qu'il y a des réactions qui se mettent en place. Et donc, ça pour dire que je pense que la montée de l'extrême droite, c'est très mauvais signe si ça se greffe à un appareil d'État. C'est pas la même mimolette, hein, parce qu'ensuite on aura vraiment. Du coup, ils auront beaucoup plus de pouvoir. Mais par contre, là, pour l'instant, dans l'opposition, c'est peut-être aussi le champ du cygne de la domination raciale. C'est-à-dire, quand on sent qu'il y a tout un ensemble de privilèges qui se perdent, qu'on se braque et qu'il y a ce type de score qui émerge. Donc, c'est un peu une ligne de crête, mais qui est. Donc, je sais pas si c'est compréhensible et si ce message est très positif, mais c'est aussi. Voilà, il y a de la réaction. S'il y a de la réaction, ça veut dire qu'il y a de l'émancipation en face. Et donc, entre guillemets, c'est un signal qu'il y a, il y a eu des victoires. Comme la manif pour tous, après, face aux luttes LGBT.
Quando la storia viene raccontata solamente con l'unico obiettivo di confondere la gente, ti devi domandare, devi verificare, devi capire senza giudicare.
E se sulle colonne del giornale leggerai che il movimento ha dato solamente tanti guai, ti devi domandare che cosa è giusto fare quando il potere ti vuole schiacciare.
Se dai gli schermi bianchi della tua televisione ti spiegheranno che fu solo grande confusione. Ti devi domandare che cosa è giusto fare quando il potere è solo del padrone.
se tanti giornalisti ben pagati dai potenti diranno che eravamo solamente prepotenti. Ti devi domandare che cosa è giusto fare quando il potere ingaggia i delinquenti. Ti devi domandare che cosa è giusto fare quando il potere ingaggia i delinquenti.
Quando racconteranno che la nostra vocazione fu solo la violenza, che fu solo distruzione.
Devi sapere allora, fu solo fede e amore e la giustizia in un mondo migliore. Devi sapere allora, fu solo fede e amore e la giustizia in un mondo migliore. E se racconteranno che fu il nostro movimento ad impedire allora che ci fosse un cambiamento, ti devi domandare perché in questo momento i tuoi diritti son dispersi al vento. Ti devi domandare perché in questo momento i tuoi diritti son dispersi al vento.
Vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel avec l'émission Vive la Sociale. Vous avez écouté l'enregistrement de la présentation du livre de Félicien Faury, Des électeurs ordinaires, organisé par la librairie Michel Fir le 28 mai dernier à La Parole Errante. Voici maintenant les quelques remarques que cet exposé et la lecture du livre nous ont inspirées. Félicien Faury a axé le cœur de sa recherche sur la question du racisme, ce qui est certainement important. Mais il fait allusion dans plusieurs passages de son livre à la fragilité sociale de ses électeurs qu'il a rencontrés et à leur peur. Cet aspect des choses est mis en valeur vers la fin de la présentation quand il envisage une forme de résistance. Il y a aussi un autre aspect de son analyse qui me semblerait mériter un approfondissement. Il faudrait historiciser la notion de racisme, car ce qu'on classe sous l'étiquette de racisme n'a pas toujours le même contenu. Par exemple, est-ce que les racistes de l'époque de l'esclavage, du Ku Klux Klan, de la colonisation, des émeutes d'Egmort, ou des scientifiques nazis, sans parler de l'époque de la guerre d'Algérie, sont-ils les mêmes que ceux d'aujourd'hui? Moi, j'ai l'impression que non. Et il faudrait donner un contenu historiquement déterminé par rapport aux sociétés qui produisent ces formes de racisme. Faury parle, vers la fin de son entretien, du racisme dans le contexte européen comme réaction à la décolonisation, sans vraiment développer son propos, malheureusement en fait. Or, dans la chaîne des équivalences qui font sens, identifiées par Faury, il y en a une généralement sous-estimée, et c'est la rencontre entre le climat de peur entretenu par les médias et les incivilités au quotidien qui pourrissent la vie des gens ordinaires. Moi, j'ai l'impression que si on veut comprendre le point de vue de ces gens, on devrait un peu en tenir compte. Dans les votes RN de ces dernières élections, il y a aussi d'autres facteurs dont il faudrait tenir compte. J'essaie d'en citer quelques-uns. À mes yeux, le rejet de Macron et de sa politique de destruction systématique des services publics est un des facteurs principaux. C'est compréhensible que des personnes dont la fragilité augmente soient demandeuses de protection face à l'État. Et ce rejet fait suite à la vague du mouvement des Gilets jaunes et des mesures totalitaires imposées lors du Covid. Et dans ce cadre-là, Le Pen a été perçue comme la mieux à même de débarrasser le pays de Macron. Dernier élément, la lutte contre les pauvres et l'augmentation de l'incertitude face à l'avenir de larges secteurs de l'électorat populaire, comme les précaires, auto-entrepreneurs, chômeurs, petits patrons, commerçants, etc., c'est-à-dire les gens que Félicien Faury, en bonne partie, rencontre, sont influencés par ce type de situation et d'attitude du pouvoir en place.
Bon, Nicole, je suis d'accord moi aussi, d'abord pour dire que le mérite du livre, c'est effectivement d'avoir cherché à prendre toute la mesure de la part de racisme qu'il y a dans le vote en faveur du Rassemblement National, dans certaines couches populaires françaises de souche, pour employer le vocabulaire courant. Mais j'ai moi aussi toutefois quelques réserves à faire, et sur plusieurs points. D'abord sur l'usage même du concept de racisme. Car quoi qu'il en dise dans son livre, où il cherche à justifier le fait de reprendre ce terme, aujourd'hui très banalisé, y compris dans les sciences sociales, ce mot reste connoté, à mon avis, à une question de couleur de peau. Et de ce fait, il masque l'essentiel de ce qu'il alimente et qui relève aujourd'hui de logiques surtout identitaires, logiques d'exclusion, aux motivations bien plus diverses. Des logiques d'ailleurs que le livre montre bien, hein, mais qui sont aussi bien plus difficiles à critiquer en tant que telles que le véritable racisme, car les logiques identitaires, elles imprègnent maintenant toute la société, à gauche comme à droite. Deuxième réserve, c'est sur les limites de l'enquête qui a été menée, qui restreint quand même à l'intérêt du livre pour ceux qui voudraient comprendre les motivations de l'ensemble des électeurs du Rassemblement National. D'abord, l'enquête porte sur une région où le véritable racisme, c'est-à-dire celui qui est hostile d'emblée à la présence de personnes d'une autre couleur de peau, ce racisme-là est une vieille histoire. Les ratonnades des années 60-70, c'est surtout dans cette région qu'elles se sont produites. Et ça fait des décennies que dans cette région, le discours raciste se fait entendre partout dans la vie quotidienne et qu'il est de fait banalisé, pour des raisons qu'il faudrait analyser, mais qui sont liées en partie à la présence importante des pieds noirs, sans doute, donc au poids résiduel de la guerre d'Algérie. Bon, c'est une autre discussion. Mais on ne peut a priori pas généraliser à l'ensemble de l'électorat RN de France les constats qui sont faits dans cette enquête. Car en PACA, la longue permanence des sentiments anti-arabes constitue a priori un terreau fertile pour le discours nationaliste excluant du Rassemblement National. Deuxième limite, à mon avis, de cette enquête, c'est le fait qu'elle porte sur un milieu social bien spécifique, et il le dit lui-même, l'auteur le dit lui-même, à savoir les couches moyennes blanches, entre guillemets toujours, ce qui ne nous éclaire pas sur les motivations de l'électorat RN ouvrier, qui est largement plus représentée dans d'autres régions, comme le nord de la France. Mais elle ne nous éclaire pas non plus sur celle de l'électorat RN issu de l'immigration, qui existe lui aussi, et qui n'est pas exempt, lui non plus, de logique d'exclusion et de concurrence. Des discours plus ou moins explicites du genre « Nous, les anciens immigrés, nous sommes plus légitimes que les autres », plus légitime à faire partie de la nation française que ceux qui viennent d'arriver, qui nous font du tort à nous aussi, etc. D'une manière générale, les réactions qui relèvent de la concurrence entre pauvres, notamment entre salariés mal payés et personnes vivant d'allocation, ces réactions-là sont absentes de l'enquête. Et pourtant, elles pèsent très lourd, je pense, dans le vote en question. Et puis, le territoire d'enquête, lui aussi, est assez restreint. Les territoires délaissés, que sont les territoires ruraux, eux aussi votent massivement pour le RN, mais pour de toute autre motivation. C'est notamment le sentiment d'être abandonné par l'État, dont tu as parlé, Gianni, lié à la disparition des services publics, à la présence de ces déserts médicaux qui rendent la vie quotidienne extrêmement pénible. Et le sentiment d'être abandonné, mais au profit de régions urbaines dominées par les riches, les bobos, etc., tout ça qui alimente le ressentiment. Donc toutes ces dimensions, on ne les retrouve pas, disons, dans ce livre. Et bon, ça en est une limite importante, même si quand même honnête, l'auteur le reconnaît lui-même a priori. J'ai un autre type de cryptype à faire, à savoir que c'est une démarche sociologique. L'auteur est sociologue, il assume son rôle. La démarche sociologique, elle suppose de laisser se déployer le discours des enquêtés, comme il dit, sans argumenter. Et ça a pour effet de capter des convictions individuelles qui sont construites à partir du vécu personnel de l'enquêté, sans que l'on puisse vraiment saisir dans quelle mesure cet enquêté peut être réceptif aux contre-arguments qui pourraient lui être opposés dans une véritable discussion. Elle ne capte pas la façon dont le débat contradictoire peut influer sur la perception, sur les choix électoraux des populations qui sont sensibles au discours du Rassemblement national. Or, l'influence de ce discours s'explique aussi, sans doute, par l'absence de débat politique, justement, par l'enfermement dans ce qu'on appelle le ressenti. Un ressenti qui se partage, certes, avec d'autres, mais entre gens qui vous ressemblent, et que les politiciens du Rassemblement national, tellement audible dans les grands médias désormais, ben, se charge de conforter. Alors du coup, l'invitation faite par l'auteur aux militants, tout à fait en fin de présentation, à tenir un discours de classe aux partisans du RN, mais est presque paradoxale de mon point de vue. Oui, bien sûr, c'est bien ça qu'il s'agit de faire, tenir un discours de classe. Mais peut-être faut-il alors éviter de se focaliser sur les dimensions « racistes » entre guillemets, de leur discours, comme le fait cette enquête, pour mettre l'accent sur les raisons de lutter que les prolétaires ont en commun. Et suffit-il de dire que le racisme, c'est pas OK pour le faire reculer, comme préconise l'auteur? Formulé comme ça, à mon avis, c'est se passer sur un plan moral, et on voit bien que les valeurs morales, elles ne pèsent pas lourd face aux logiques identitaires qui confortent le racisme. D'une manière générale, je trouve que l'auteur ne saisit pas le fait que la montée des positionnements anti-immigrés qualifiés de racistes va de pair avec la montée générale des discours identitaires. Or, si l'on veut tenir un discours de classe aux électeurs du RN, il faut mettre en avant les valeurs de solidarité de classe, en s'attaquant clairement à toutes les formes de repli identitaire. Du coup, voir, comme le fait l'auteur dans la poussée généralisée de l'extrême droite en Europe, avant tout une réaction à la décolonisation et au succès des luttes LGTB, enfin c'est bien ce qu'il fait comme hypothèse optimiste à la fin de son exposé, c'est à mon avis rester dans le cadre d'un affrontement entre des logiques identitaires. Et c'est ne pas comprendre le rôle que joue ces logiques dans le délitement du sentiment de classe. Bon, mais là c'est tout un débat qui s'ouvre et puis on va pas aller beaucoup plus loin dans le cadre de cette émission, il faudra le reprendre sans doute.
Je voudrais dire juste quelques mots sur ce que tu appelais le discours du RN. Si vous regardez le programme du RN pour ces législatives, on va voir qu'ils ont mis en avant le soutien au pouvoir d'achat, l'idée de remettre la France en ordre, stopper la submersion migratoire, comme ils l'appellent, soutenir l'agriculture, notre agriculture, donner une priorité à la santé, simplifier la vie des Français, la réduction de la TVA de 20% à 5% à 5,5% sur l'énergie. Ils sont pour le RIC, c'est-à-dire le référendum d'initiative citoyenne repris pêle-mêle de la vague des Gilets jaunes. Ils sont pour investir dans le nucléaire. Dans tout ça, ils ne font qu'en partie reprendre les discours qu'on a entendus de la part du gouvernement, en bonne partie, mais la plupart des gens se disent « Mais si c'est ça le fascisme, c'est pas si grave. » Et de ce fait, ils rejettent la dramatisation qui a lieu à chaque élection avec la Constitution, les fonds républicains, avec les mêmes responsables des politiques qui ont alimenté le mécontentement des classes populaires. C'est ça qui rend les choses peu lisibles de la part des électeurs, de tous ceux qui essayent de s'opposer à cette vague favorable au RN.
L'émission Vive la Sociale touche à sa fin. Vous nous retrouverez dans un mois sur les ondes de Fréquence Paris Pluriel et nous passons l'antenne à Zoom Écologie. Vous pouvez aussi Retrouvez cette émission lundi prochain à 8h30 et sur le site vivelasociale.org, les émissions récentes. À bientôt. ¶¶